Donc, on est de retour avec mon moment préféré de la semaine, mon podcast avec Jonathan Léveillé, où est-ce qu'on discute des nouvelles affaires qu'on a trouvées intéressantes à partager avec l'audience d'Hypercroissance. Mais première chose, Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien, Antoine, et toi?
Yes, très, très bien. Comme je t'ai dit, j'adore faire ces discussions avec toi et parler affaires, parler de ce qui se déroule dans l'actualité et regarder également ce qui peut se dérouler dans d'autres pays, comme les États-Unis, pour voir comment on peut adapter un petit peu notre manière d'opérer nos organisations. Et deux sujets qu'on va aborder ensemble dans le podcast aujourd'hui. Première chose, un inévitable, le télétravail, le travail du bureau, le travail en hybride. C'est qu'est-ce qu'on veut choisir au final? Il y a beaucoup d'articles et d'études qui sont sortis très récemment, autant au niveau Québec qu'au sud de la frontière, des statistiques. Des fois, on dirait un petit peu qui ne sont pas les mêmes des deux côtés, des deux pays, ou du moins qui portent à réflexion, qui portent à discussion. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va analyser tout ça. Quelle est la véritable valeur du télétravail et du travail hybride en 2022, basée sur des statistiques faites au Québec et faites aux États-Unis? Il y a beaucoup de segments assez intéressants à analyser. Également, par la suite, on va parler d'un nouveau programme de fidélité, ou plutôt une amélioration du programme de fidélité actuel que Starbucks a mis en place avec la technologie des NFT. Un article très fascinant aussi, celui-là, qui a été sorti par TechCrunch, qu'on va analyser, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt, Jonathan, à ce qu'on discute de tout ça ensemble?
Tout à fait prêt, Antoine. Allons-y.
Donc, premier point, on le dit, est-ce que le télétravail est là pour rester? C'est un article qui est sorti dans le Journal de Montréal le 8 septembre dernier, un sondage qui avait été fait par la firme de Léger Marketing et qui sort des statistiques assez intéressantes. Donc, la première statistique qui a capté mon attention, et je pense qu'elle a capté la tienne également, 66 % des jeunes professionnels ayant travaillé en télétravail espèrent continuer à le faire à temps plein, alors que 33 % préféraient un modèle hybride, soit un partage entre la maison et le bureau. Encore une fois, on mettra l'article dans les notes de l'épisode. Ça, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est 99 % des gens veulent continuer du télétravail, que ça soit à temps partiel ou à temps plein, mais un retour à 100 % au bureau ne semble plus envisagé. Donc ça, c'est des statistiques qui sont sorties très récemment, encore une fois, je le répète, avec la firme Léger dans le Journal de Montréal, le 8 septembre dernier. D'autres points intéressants avant qu'on puisse rentrer davantage dans un format de discussion. Donc, je vous sors les chiffres. Lorsque vient le temps de choisir son employeur, et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, les jeunes travailleurs considèrent à 53 % que les conditions de travail, incluant les salaires et les avantages sociaux, constituent l'élément de recherche le plus important. Donc, globalement, on dit qu'une personne sur deux en ce moment, là, si on n'a pas les bonnes conditions de travail, l'environnement de travail, et qui peut bien entendu se prêter au travail à distance ici, eh bien, ça va peser dans la balance. Donc, ça, c'est un point assez important à mentionner ici. Avant de sortir peut-être d'autres chiffres, t'en penses quoi de tout ça, Jonathan?
Je pense que effectivement aujourd'hui, on n'a plus le choix d'avoir une offre qui est hybride. Je pense qu'effectivement, les gens veulent plus retourner 100% en télétravail. D'un poste à l'autre, ça peut varier d'un côté comme de l'autre. Mais on a quand même trouvé une statistique un peu plus intéressante quand on creusait dans le volet des gens hybrides versus le 100% télétravail. Et cet article-là m'a quand même étonné, m'a quand même surpris. Donc, pour vous amener sur ce volet-là, c'est un article de Business Insider qui parle de la génération Z. Donc, les jeunes, généralement, entre, je pense, si je ne me trompe pas, entre 20 et 29 ans. Et c'est un peu le cas d'une personne qui a décidé de démissionner de son emploi parce que dans son emploi actuel qu'il y avait, c'était du 100% télétravail. Et elle disait qu'elle aurait aimé que son employeur aurait été un peu plus strict à ramener les gens au travail, ça aurait été plus bénéfique pour elle, sur la première raison que ces jeunes-là qui rentrent sur le marché du travail ont besoin quand même d'avoir une vie sociale, une vie communautaire et une vie qui est apportée un peu par ce qui se crée dans le social, au day-to-day, dans l'entreprise où ils travaillent. Et ils ont commencé à creuser un peu derrière tout ça. Et c'est là que la statistique devient intéressante. Par tranche d'âge, en partant de 20-29 en montant jusqu'à 50-64, plus on monte en âge, plus les gens sont intéressés à être 100% télétravail. Et c'est là que moi, personnellement, ça vient m'intriguer ou m'épater un petit peu. J'aurais été en perception que ça aurait été l'inverse. Si on parle des jeunes 20 à 29 ans, il y a seulement 24 % des gens qui veulent être 100% télétravail, la tranche de 30 à 39, 29 %, Ensuite, 33 % pour l'autre strate et 41 % des 50-64 ans désireraient être 100 % en télétravail. Et ça, moi, personnellement, ça vient vraiment m'épater comme statistique parce que j'aurais pensé probablement que ça aurait été l'inverse en pensant que les jeunes sont habitués d'être seuls devant leur écran et sont plus électroniquement habitués. Et là, c'est l'inverse et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi que plus on avance en âge, plus qu'on désire faire du 100% télétravail, outre le fait que l'article démontre que les jeunes ont peut-être besoin de créer un peu plus leur réseau social ou leur communauté sociale autour d'eux, qui est souvent le lieu du travail qui apporte cette partie-là. Mais toi, Antoine, as-tu une opinion là-dessus qui ferait que plus on vieillit, plus on voudrait être en télétravail à 100%?
Ben clairement, puis je pense que c'est important de le mentionner à notre audience aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait commencer en donnant un article et un contenu du Québec. Et là, ce que Jonathan vient de dire, c'est un contenu qu'on a sorti de Business Insider qui vient des États-Unis. Donc ça, c'est important. Là, on voulait commencer en vous donnant les deux informations, elle de Léger, qui montre que clairement, les gens veulent avoir le choix. Donc, en 2022, obliger à 100% le télétravail au Québec semble complexe. Et d'un autre côté, c'est ça qui est intéressant parce que l'article est sorti quasiment simultanément. On parle de début septembre. L'article que Jonathan vient de dire, c'est la même chose ici. Les gens, c'est le contraire. On a des informations, des statistiques qui nous poussent à nous demander à quel point il faut absolument mettre le télétravail dans notre entreprise. Ou du moins, c'est une réflexion qu'on peut avoir en lisant l'article. Bon. Comme tu le dis, les jeunes sont, on va dire entre 20 et 29 ans, sont moins enclins à travailler à 100% télétravail. Moi, je pense que essentiellement, ça s'explique par une chose, c'est que ils n'ont pas vécu le travail au bureau. Hein? C'est aussi simple que ça. Quand tu as travaillé pendant 20 ans de ta vie dans un bureau avec des gens et qu'ultimement, on te donne une autre possibilité de travailler de chez toi et que là, cette nouvelle possibilité-là est davantage intéressante pour toi avec la vie que tu es en train de vivre, ben là, c'est là peut-être que tu vas dire tu veux continuer à faire ce télétravail-là. OK? D'un autre côté, j'ai l'impression que la personne qui a jamais vécu un travail dans le bureau et qui a uniquement vécu un travail de la maison, ah ben là, cette personne-là est peut-être en train de se dire, est-ce que moi, je pourrais vivre et comprendre un petit peu c'est quoi la réalité d'un travail dans un bureau avec des gens? Et bon, on sait très bien que beaucoup d'amitiés, même des relations amoureuses peuvent se créer au travail, peuvent difficilement se créer en télétravail. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, j'ai l'impression que ça part un petit peu de ça. C'est quand tu lui as jamais goûté, ben, ultimement, tu veux y goûter. Et par la suite, te faire un choix éclairé à savoir qu'est-ce que tu préfères entre les deux. Et c'est ça que je trouve intéressant ici, c'est que dans ce qu'on a été capable de voir, c'est ça, c'est que les gens qui ont travaillé pendant très longtemps au bureau ont l'air davantage appréciés, ou du moins avec l'article de Business Insider, le fait d'avoir le choix, ou plutôt la liberté de travailler 100% du temps de la maison.
Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été énormément en mode école à la maison. Donc, leur réseau social est peut-être un peu plus limité où ils ont un goût d'aller goûter un petit peu plus à la vie sociale puis à faire des contacts puis à se faire des amis un peu plus en physique. Donc, le travail est souvent cette porte-là ou ce tremplin-là potentiel pour développer ce côté-là de leur vie qui est probablement déjà très développé ou très mature plus qu'on avance en âge, qu'on se concentre un peu plus sur sa famille, sur les enfants, sur le jardin en arrière de la maison et tout ce qui est autour. Donc, on préfère être un petit peu plus casanier autour de sa propre vie personnelle autour de la maison. Donc, je pense que le télétravail vient plus favoriser peut-être cet élément-là et donner plus d'importance ou de place à ce qui se passe autour de la maison puis dans son petit chez-soi à ce moment-là.
Puis je pense aussi d'autres points à mentionner, et là je vais revenir, j'espère que je ne suis pas en train de trop mêler notre audience aujourd'hui, mais davantage un article du Journal de Montréal qui fait quand même écho un petit peu à ce qu'on est capable de voir dans Business Insider. Je pense que Business Insider ont surtout relevé le côté qui n'a pas été grandement exploré et vu par les entreprises et par les employés depuis le départ, c'est-à-dire un peu le revers de la médaille, l'envers de la médaille du télétravail et ce que, essentiellement, les gens, après 2 ans, ont pensé. Je pense que très facilement, tout le monde s'est habitué à cet environnement-là et on l'a adopté plutôt. Mais au final, il y en a, c'est ça, comme qu'on était capable de le voir, surtout au niveau des jeunes qui aimeraient retourner davantage au bureau. Et l'envers de la médaille qu'on est capable de voir également dans le Journal de Montréal, dans le sondage Léger Marketing, c'est que, et ça c'est intéressant, là, 35% des nouveaux employés en bas de 35 ans. Donc là, ça revient au segment là, qui a l'air de trouver ça un petit peu plus complexe dans les gens qui ont été sondés aux États-Unis. Donc, 35 % des nouveaux employés en bas de 35 ans interrogés estiment que l'intégration plus difficile représente le principal désavantage au télétravail, alors que 33 % désigne la difficulté à imposer ses propres limites quant aux heures travaillées comme étant le principal ennui. Et ça, je pense que effectivement, ça peut devenir un point assez complexe. On voit les mêmes points qui ressortent ici, là, la difficulté au niveau social, mais le fait de ne pas savoir quand arrêter, de ne pas pouvoir quand arrêter, parce que c'est ça qui se déroule. Des fois, on peut prendre une petite pause en après-midi, mais on continue le soir. Il n'y a pas vraiment de limite, hein? Il n'y a pas vraiment de limite qui vont se créer ici, des fois, quand on est en télétravail. Et ça, je pense qu'au final, ça peut être un enjeu. Ça peut être un gros enjeu que des entreprises peuvent vivre. Et je pense qu'à un certain point, nous, en tant qu'employeurs, c'est à nous également de mettre des limites, hein? De mettre des limites et d'encourager les gens à un certain point, à un moment donné, de fermer leurs ordinateurs et de vaquer à leurs occupations personnelles parce que c'est trop facile d'aller voir un email ou d'aller retourner voir ces trucs en soirée quand au final, la journée de travail, elle est terminée.
Effectivement, mais j'apporterais un point supplémentaire à ça, c'est même si on ferme l'ordinateur, on reste encore dans le même espace. Donc, est-ce que c'est vraiment possible pour le cerveau de transférer dans un mode de « j'arrête de travailler puis je suis plus dans le même mindset » Moi, ma perception et mon opinion, c'est que c'est très difficile d'y arriver. De la même manière, souvent, qu'il y a des spécialistes qui vont dire que quand tu rentres dans ton espace où tu dors, donc dans ta chambre, il faut qu'il se passe rien d'autre que dormir. Sinon, le cerveau est conditionné à ce qu'il y ait quelque chose d'autre, puis ça ne sera pas complètement focusé sur on se repose, on dort, puis c'est correct. Mais il y a combien de gens qui travaillent sur leur coin de cuisine ou que leur bureau est dans leur salon ou dans leur espace commun de vie? C'est bien beau qu'à 4h30, on a fermé l'ordinateur, mais il n'y a pas une coupure qui se fait psychologiquement et physiquement, qui, je pense, permet à 100% de décrocher. Donc, on est toujours un petit peu accroché au travail. Ça paraît pas trop, mais à la longue, probablement, ça devient pesant et ça devient fort probablement difficile pour le mental. Puis tu me connais, Antoine, comment je suis un grand fervent de faire une coupure entre le travail à la maison puis au bureau. Puis pour donner mon opinion personnelle, moi, j'ai beaucoup de la misère de travailler de chez nous. Oui, ça nous a servi, je pense, pendant... Je n'arrive pas à être autant fonctionnel et autant... reposer par après, parce que j'ai l'impression de tout le temps travailler quand je suis chez nous, même si je travaille pas. Donc, je suis jamais à mon plein potentiel, autant au bureau qu'à la maison. Quand je travaille de la maison, ça vient impacter sur mes deux sphères de la vie. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, plus j'en parle à des gens, plus des gens me disent la même chose. Puis, je viens de passer, juste avant notre entrevue, notre recording d'aujourd'hui, une personne dans une entrevue dans le processus chez Open Mind. Puis, elle me disait, si c'est du 100% télétravail, moi, ça m'intéresse pas. J'ai de la misère. On peut en faire un peu de la maison, mais je vais être avec une gang, je vais être au bureau. J'ai l'impression qu'on commence à entendre ça un petit peu plus. Je dis pas que c'est de la normalité et que c'est de l'avenue de faire 100% bureau. Je pense que c'est vraiment un hybride qu'il faut. Il faut accommoder une flexibilité. On a fait des bons gains sur la vie personnelle, mais 100% à distance, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à voir comment ça peut être correct pour le mental, pour le bonheur de l'humain et tout ce qui est autour.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenus natifs et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/hypercroissance. HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Mais c'est qu'au final, c'est plus difficile de te définir comme une entreprise. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de te définir comme une entreprise. Bon, nous, la majeure partie des gens sont en télétravail, mais on offre des bureaux partout. D'ailleurs, tu es en train, je pense, d'enregistrer le podcast aujourd'hui dans nos bureaux de la ville de Québec.
Exactement.
En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, de notre côté. C'est donner accès à un bureau à tous les gens qui, s'ils veulent un bureau, mais au final, acceptent que les gens peuvent travailler de chez eux ou de leur bureau. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu, parce que ça, je pense que c'est intéressant ce que tu viens de mentionner un petit peu. Tout le volet, on a de la misère à décrocher. Ça peut impacter notre vie quotidienne parce qu'on sent qu'on est toujours en train de travailler. Puis c'est ce qui sort aussi hein, dans l'article du Journal de Montréal, la santé mentale. Il y a un paragraphe au complet qui ne parle que de ça. Donc, la santé mentale de 42 % des jeunes de 16 à 35 ans ne serait pas améliorée depuis la période pandémique. Donc, c'est quand même grave, là. Puis, même la personne en charge de l'article dit à quel point que c'est inquiétant. Puis, encore une fois, ils disent qu'il y a un tiers des jeunes travailleurs en bas de 35 ans qui jugent insuffisantes les mesures prises par leur employeur pour favoriser leur santé mentale. Tu vois, nous, on s'en est rendu compte de ça dans nos sondages internes avec tous nos employés. Je pense qu'on utilise le même outil là, ici, Office Vibe, ou en tout cas, je pense que vous en utilisez un similaire chez vous également, chez OpenMind, pour prendre l'information. Puis on se rendait compte de ça un petit peu, c'est de se dire, effectivement, à un moment donné, les gens sont face à eux-mêmes selon des problématiques qui n'ont pas le réflexe, je dirais, de parler rapidement avec leurs collègues quand ils sont uniquement sur Slack ou en Zoom. Même si on le sait que c'est facile d'aller faire un Zoom, je pense que le réflexe est plus compliqué. Nous, on a mis en place, et je sais pas si tu connais l'entreprise, Jonathan, puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça peut peut-être vous aider. Nous, ça a été quand même, je dirais, pardonnez-moi l'anglicisme, un game changer dans notre organisation, c'est Dialogue. Donc, Dialogue, qui est une organisation canadienne, montréalaise, je pense même, qui offre la possibilité à tous les employés d'avoir accès à un professionnel de la santé quasiment instantanément. Ça peut être une rencontre que tu bookes pour la journée d'après, des fois même pour la journée même. Donc, Dialogue offre la possibilité de parler avec des psychologues, avec des gens pour des pépins de santé un petit peu plus graves, même des fois des docteurs. C'est assez exceptionnel. Et la tarification, moi, elle m'a surprise à quel point que c'était pas tellement élevé. As-tu déjà considéré ou peut-être même utilisez-vous Dialogue chez OpenMind?
Je te confirme que dans le dernier renouvellement d'assurance qu'on a eu, ça l'inclut Dialogue. On était très contents. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à l'utiliser et c'est révolutionnaire. Je pense que ça enlève beaucoup de stress sur les gens d'une question de réussir à trouver un médecin, ce qui est déjà un chemin de croix en soi. Mais après ça, c'est la disponibilité de booker, de faire ça à distance. Surtout les gens qui ont des petites familles, c'est vraiment un bel exemple d'un avantage que la technologie peut apporter, je pense, dans notre quotidien. Puis en plus, c'est Montréalais, c'est des jeunes Montréalais qui ont parti ça vraiment de manière incroyable. Et il y a beaucoup de sous en arrière de ça. Toute la famille démarrait avec les fonds d'investissement. Mais je pense que c'est l'avenir qui est aujourd'hui, ce genre de service-là. Et je le recommande pour tout le monde. Tu parlais d'Office Vibe également, un beau produit montréalais de G-Soft. On l'utilise également. Je le recommande à tout le monde qui nous écoute. C'est des beaux compléments, des beaux outils qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe dans nos équipes. Puis Dialogue nous permet à ce moment-là de donner la possibilité à nos joueurs de passer à l'action puis d'aller à la prochaine étape pour s'aider. Que ce soit une question de santé, une question de autant physique que mentale. Mais je pense que tout le monde devrait être suivi par quelqu'un pour autant côté psychologue que santé pour être certain d'être à son meilleur.
Mais je pense qu'on n'a plus le choix. Je pense que c'est même un devoir. Dans le sens que si, puis même si les gens sont en présentiel d'ailleurs, même si les gens sont en présentiel, mais si clairement tu embrasses le télétravail avec un modèle hybride, un modèle libre à soi de travailler où la personne veut et que tu n'as pas ce contact-là avec la personne, puis encore une fois, je tiens à le dire, même si t'es en présentiel, le dialogue peut grandement aider, mais je pense que ce que offre, ou du moins dans ma perception d'entrepreneur ici, dans ma perception de chef d'entreprise, qu'offre Dialogue, c'est la possibilité de donner un peu un cri de secours des fois pour un employé qui pourrait venir te voir dans le bureau ou qui pourrait parler avec un collègue autour de la machine à café s'il y avait un souci ou que ses collègues seraient capables de le voir. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un rentrer au bureau puis la personne n'a pas la même mine que d'habitude puis tu sais, t'es capable d'ouvrir une discussion. Soyons honnêtes, là, c'est pas autant facile, peu importe les initiatives qu'on veut mettre en place, de voir ça dans des rencontres Teams, dans des rencontres Zoom. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, Dialogue, c'est de dire, écoute, on va toujours faire ces rencontres-là chaque semaine pour voir comment tu vas, comment qu'on peut améliorer ta vie au travail. Mais là, en plus de ça, tu peux littéralement oublier la personne RH chez nous ou ton supérieur immédiat et parler à quelqu'un de totalement externe qui va pouvoir t'écouter, comprendre. Moi, ça a été ça vraiment la grande valeur perçue, c'est de me dire une personne qui est chez elle, qui est peut-être pas nécessairement dans une belle passe de sa vie, a pas uniquement besoin ou a pas seulement la chance de discuter avec ses collègues, ses amis, sa famille. Il peut parler rapidement avec quelqu'un externe. J'ai trouvé ça fabuleux, là.
Très bon point. Puis tu me fais penser de relancer le message à tout le monde dans l'équipe parce que c'est bon qu'on ait ces outils en place. Mais après ça, je pense qu'on a un outil, on a un devoir en tant que dirigeant d'entreprise de ramener constamment ces messages-là sur la table que, hey, ces outils-là existent et utilisez-les, gang. Donc, c'est pas juste une question de les mettre en place. Puis tu me fais rappeler aujourd'hui que je pense qu'il faut relancer un petit message à toute l'équipe de notre côté de bien utiliser ces outils-là. Là.
Exact. En plus que là, le soleil est en train de tomber un peu. On sent qu'on est vraiment dans l'automne. On est le 20 septembre 2022 aujourd'hui. Donc, on est à un petit peu plus de 24 heures dans l'automne officiellement. Donc, on s'entend, c'est souvent dans des périodes un petit peu plus sombres hein, que là, des fois, ça peut être plus difficile sur le moral de travailler et de faire un paquet de choses. Donc, je pense que c'est important de le remensionner à nos collègues de travail. Donc, bon. On parle souvent de télétravail sur le podcast, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est une réalité quotidienne que beaucoup de chefs d'entreprise vivent. Il y a des bons, il y a des moins bons coups, il y a des apprentissages, il y a de l'évolution au télétravail. On va continuer à en parler, mais également, on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait discuter ensemble, Jonathan et moi, c'est la technologie que Starbucks a mis en place au niveau de son programme de fidélité avec une technologie qui va venir du modèle NFT. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Jonathan? Parce que ça a l'air également, c'est aussi, on parlait de dialogue qui est révolutionnaire, ça a l'air pas pire également, le programme de Starbucks.
Effectivement, Starbucks étant toujours très innovateur, ça a été dans les premiers à instaurer le concept de mettre le Wi-Fi dans les cafés pour apporter plus de gens et les garder plus longtemps en magasin. Ça a été un des précurseurs à vendre des cartes cadeaux et à encaisser beaucoup d'argent avant même que ça soit consommé par le client. Donc, Starbucks font beaucoup de profit présentement avec les cartes cadeaux vendues, mais maintenant qui est en application mobile. Donc, Starbucks étant toujours un leader à tester des nouvelles technologies, à les amener au marché et surtout à en trouver une plus-value pour leurs utilisateurs et leurs clients. Je pense que c'est ça qui est l'important. Mais Starbucks a investi massivement dans une technologie qu'ils ont déployée là, en format bêta dans les dernières journées pour bonifier leur programme de loyauté et pour mettre, exprimer un petit peu à l'auditoire qu'est-ce que c'est. Je vais mettre certains concepts techniques sur la table pour essayer de les simplifier pour que tout le monde puisse bien comprendre. Le NFT étant un non-fungible token, donc qui est un actif qu'on émet à quelqu'un qui ne peut pas être piraté. Donc, c'est un titre officiel qu'on détient quelque chose et grâce à la blockchain, qui est un gros registre, qui est pratiquement impiratable, ça permet de venir confirmer qu'on détient quelque chose qui est généralement quelque chose de numérique, mais qui peut être également rattaché à quelque chose de physique. Donc, un exemple, tout ce qui est les NFT et la blockchain, c'est beaucoup appliqué dans les dernières années dans le domaine artistique. Donc, vous pouvez acheter une peinture, une œuvre d'art de quelqu'un renommé et le certificat d'authenticité de cette œuvre d'art-là serait un NFT. Donc, ça serait une inscription dans un grand registre qui est la blockchain qui permet de dire, bien, vous détenez la copie officielle ou le certificat officiel de cette œuvre d'art-là et ça permet de créer une authenticité à travers tout ça. Donc, ce que Starbucks a fait, c'est qu'ils ont été chercher des grands joueurs de l'industrie et ils ont décidé d'investir et de développer leur propre programme sous la blockchain de technologie Polygon. Il existe un paquet de technologies différentes. Et ce que ça permet à ce moment-là, ça va permettre d'émettre des ce qu'on appelle un peu des certificats. Eux autres, ils appellent ça des stamps, des étampes officielles. Quand on va faire certaines actions qui sont prédéfinies par Starbucks. Donc, Starbucks pourrait dire, ben viens prendre 3 cafés, on va t'émettre une étampe virtuelle qui est authentifiée par la blockchain, donc un NFT. Et à partir de là, on peut accumuler des privilèges, échanger ces privilèges-là contre des expériences Starbucks. Et c'est là que ça devient intéressant. Les programmes de loyauté normale, ça va être, ben viens consommer dans mon magasin, je vais te donner des choses gratuites. Mais avec les NFT, il y a moyen, à ce moment-là, d'émettre des collections spéciales d'NFT. Et là, si tu fais certaines actions dans un certain temps, tu peux acquérir ce titre-là officiel. Et ça peut te débarrer une expérience, par exemple, d'aller directement dans l'université de Starbucks, de voir comment que le café est traité pour en faire un produit fini. Donc, il y a un paquet d'expériences que Starbucks est en train de définir et selon l'accumulation de ces NFT-là, eux les appellent, comme je disais, des étampes, mais ça va permettre à ce moment-là de débarrer tout ça et de créer une communauté virtuelle qui, je pense, va être beaucoup plus grande et ralliée à l'expérience Starbucks que juste le programme de fidélité actuel. Et ça va surtout permettre d'éviter la possibilité que quelqu'un essaie de pirater ce système-là au bout de la ligne. Ça leur fait quand même un très, très bon coup de pub aussi. Ils sont dans les premiers à y aller dans l'industrie. Et je pense que les autres n'auront pas le choix de suivre. Et la problématique, je pense, qui va arriver, c'est que c'est tellement de sous pour développer un programme comme celui-là qu'il y a probablement peu de compétiteurs qui vont être capables de le faire. Et les clients vont commencer à s'habituer à ce genre de bénéfices-là. Et ça va devenir un grand avantage pour Starbucks parce qu'ils vont être dans les seuls ou dans, du moins dans le top 5 des seuls mondiaux qui vont le faire. Et là, le monde va être habitué à ça. Et quand ils vont aller dans un autre café puis qu'il n'y aura pas ça, ben ils vont dire, mon Dieu, OK, je vais aller chez Starbucks finalement. Donc, ça crée un certain unfair advantage pour Starbucks. C'est tellement de sous que le café du coin pourra probablement pas faire ça ou du moins se rallier avec d'autres gens pour le faire, que je pense que ça crée un grand bénéfice pour Starbucks autant marketing, mais ça apporte une belle valeur aux clients au bout de la ligne. Puis là, ça permet vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été testées au marché. Puis ça va être intéressant également de voir comment ça va évoluer à travers le temps et à quel point ça va être repris par d'autres industries pour l'appliquer dans d'autres domaines ou dans d'autres genres de business. Fait que je pense réellement que Starbucks est en train de faire quelque chose qui va avoir un impact pour demain puis dans d'autres entreprises. Puis il y a moyen, si vous voulez aller vous inscrire sur la liste d'attente, le programme est officiellement ouvert depuis le 12 septembre et l'adresse est waitlist.starbucks.com. Je me suis inscrit moi-même la journée même. Et ils vont commencer à envoyer des invitations spéciales plus tard cette année là pour pouvoir commencer à tester ce programme-là bêta avec une population un petit peu plus grande. Donc, vraiment intéressant de la part de Starbucks. Et j'ai hâte de voir comment ça va suivre le cours des choses par la suite. Non?
Un laissez-passer. Tu sais, si on résume ça très, très simplement, c'est un laissez-passer qui va prendre de plus en plus de vélocité selon les actions que tu vas faire. Et ça, c'est... Ça peut tellement donner place à beaucoup plus d'itérations, comme tu l'as dit, pour d'autres organisations par la suite, parce qu'effectivement, juste l'engagement que ces mêmes clients-là vont pouvoir avoir quand ils peuvent se faire débloquer certaines activités, je veux dire, j'ai très hâte de voir. Puis j'espère qu'on va être capable de sortir un article d'ici quelques mois qui va nous montrer à quel point que ça a eu un impact sur les ventes, parce que c'est ça l'objectif au final, là.
Et je pense avoir un impact sur les ventes et sur la fidélisation de la clientèle, mais je pense qu'ils vont également être capables d'émettre des collections d'étampes exclusives qui sont probablement seulement accessibles si les gens déboursent de l'argent. Et là, ils vont être capables de probablement faire 100% de profit sur ces items-là qui vont être vendus, qui vont donner une certaine forme d'exclusivité aux gens qui vont détenir ces étampes-là. Et on pourrait penser un petit peu, probablement vous avez vu ou vous connaissez l'expérience là que McDonald's faisait à chaque année. Je pense qu'ils le font encore, là, mais le jeu de Monopoly. Puis là, on ramasse des étampes, puis si on a l'entièreté d'une rue, on gagne quelque chose, mais il y a tout le temps une étampe qui est jamais disponible. Mais là, Starbucks pourrait faire le même principe, mais dire l'étampe non disponible, mais vous pouvez l'acheter. Mais la personne qui l'achète pourrait la revendre sur le marché par la suite avec un bénéfice. Et là, il peut avoir toute une industrie qui se crée en arrière de ça, d'étampes virtuelles qui coûtent absolument rien à Starbucks et de la rendre disponible dans des collections un peu plus prestigieuses et de tirer un profit monétaire de ça, mais surtout de créer un marché ou un marché de deuxième niveau de revente et de scalping de ces items-là. Donc, j'ai hâte de voir où ça va aller, mais je pense que ça ne sera pas seulement un bénéfice au niveau de l'augmentation des ventes pures et de la fidélisation de la communauté. Mais je pense qu'il va y avoir un marché qui va se créer autour, qui va avoir des items virtuels qui vont être vendus, puis ils vont réussir à faire une marge de profit vraiment probablement hallucinante à travers tout ça, puis même d'avoir un pourcentage des frais de revente de ces items-là. Alors là, on tombe dans quelque chose qui est très loin du café, mais je suis convaincu qu'ils vont aller jusque-là dans les prochaines années. Là.
Non, c'est intéressant. Beaucoup d'évolution. Bon, Jonathan, des beaux sujets qu'on a discutés ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter avant que je te laisse filer?
Mais dernier item rapidement, il y a d'autres compagnies qui l'ont fait au niveau de la blockchain, des grandes compagnies de linge qui ont commencé à engager des designers virtuels pour vendre des items exclusifs virtuels sur le web avec des NFT. Et présentement, les derniers articles que j'ai lus, ils ont généré des millions de dollars en vente de ces items-là en virtuel, juste en engageant des designers qui allaient créer ces items-là. Et là, ceux qui détiennent ces NFT-là ont un certain prestige de dire ben, « je détiens la collection exclusive, exemple de Coco Chanel ou peu importe, d'un bout de linge virtuel qui pourra éventuellement être utilisé dans la métaverse future ou actuelle même. » Et là, ça devient vraiment flyé. Là. C'est qu'on est en train de transférer une business qui avait un coût dans la vraie vie, à pratiquement pas de coût de production, mais ils vendent à peu près les mêmes prix. Et là, les marges deviennent hallucinantes et il y a pratiquement peu ou pas d'utilité à ça, mais c'est juste une question de prestige. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec les NFT. Et pour vous, dans vos entreprises, réfléchissez un peu à ça parce que cette technologie-là a l'air très obscure et très difficile à comprendre et à intégrer, mais il y a plus en plus de couches qui se rajoutent pour venir simplifier l'utilisation de ça dans vos entreprises. Et soyez pas surpris si dans un an ou deux, il y a peut-être un de vos compétiteurs qui va sortir quelque chose sur la blockchain, en lien peut-être avec les NFT, qui va peut-être venir vous menacer ou venir vous brasser un petit peu, ou peut-être vous-même, vous pourriez prendre un avantage sur la compétition. Donc, ça vaut la peine, je pense, de commencer à regarder ça, à s'y intéresser. Il y a beaucoup de gens qui comparent toute la blockchain et les NFT à ce que l'Internet était dans les années 90. Tout le monde regardait ça de loin en pensant qu'il n'y avait rien à faire avec ça puis que c'était juste en bon français, un side project inintéressant, mais finalement, ça s'est mis à décoller. Fait que je pense qu'il y a du potentiel. En tant que dirigeant d'entreprise, il ne faut pas avoir les yeux fermés là-dessus. Il faut s'y intéresser un petit peu, s'éduquer tranquillement. On mange un éléphant une bouchée à la fois, comme on dit. Mais je pense que ça serait nécessaire de s'y pencher et de commencer à s'imprégner un peu de tout ça. Là.
Ah, ça va être des trucs assez intéressants à suivre, surtout qu'on a un expert en technologie avec nous. Donc, on va pouvoir le challenger un petit peu sur le sujet. Bien hâte de suivre le tout. Mais bon, encore une fois, on est au premier balbutiement de tout ça. On fera une partie 2, comme on va faire bientôt avec Elon Musk. Ça arrive assez rapidement, là, le procès qui va être en octobre. Donc, j'ai hâte d'en discuter aussi. On va faire plusieurs parties 2 du podcast parce qu'il y a tellement de sujets qu'on aborde, ça c'est clair. Là.
Et ça va être intéressant pour Elon Musk parce que le dernier épisode qu'on s'est dit, on en referait un autre en octobre et on s'est dit probablement il y a des nouvelles qui vont sortir qu'on va être vraiment impressionnés. On va dire, mon Dieu, ça sort de où? Et il y a eu quelques nouvelles croustillantes qui ont sorti pas nécessairement dans la saga Twitter, mais dans la saga personnelle d'Elon Musk depuis ce temps-là. Donc, ce serait intéressant d'en parler peut-être dans les prochains podcasts qui est encore une fois hallucinante.
Voyez, on peut parler pendant des heures, Jonathan et moi, mais là, on va respecter le temps de tous nos auditeurs et on va arrêter là-dessus aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris ton temps précieux pour notre audience de Hypercroissance aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.